La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnat.
Bonjour.
Aux États-Unis, le New York Times confesse des doutes sur le travail d'une de ses journalistes les plus réputées.
Oui, c'est un article d'un format très rare que publiait hier le grand quotidien new-yorkais puisqu'il émet des doutes sur certains articles et podcasts de Rukmini Kalimachi, une pointure dans le journalisme international. Cette dernière décennie est particulièrement réputée, vous l'avez dit Guillaume, pour sa couverture du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Il y a bien un problème Kalimachi, et c'est un problème qui met en cause directement le New York Times, reconnaît donc son collègue Ben Smith, qui signe l'article d'hier dont on sent bien que chaque mot a été savamment pesé. Rukmini Kalimachi est mise en cause suite à l'arrestation au Canada d'un homme canadien qui prétendait avoir été combattant de Daesh en Syrie et dont le témoignage avait alimenté le podcast de la journaliste du Times diffusé depuis 2 ans, 10 épisodes de reportage audio intitulé Khalifa, et centré justement sur ce récit de l'ancien djihadiste canadien. Sauf que la justice canadienne a de bonnes raisons de croire que l'homme qu'elle a arrêté est un mythomane qui n'a jamais mis les pieds au Moyen-Orient ni combattu pour le groupe État islamique. À partir de là, la question se pose. Comment une journaliste censée avoir documenté d'aussi près l'horreur de Daesh, connaître son idéologie, son fonctionnement dans les moindres détails, a-t-elle pu se faire piéger par un faux terroriste? Cette question est formulée par l'un d'eux, ces journalistes internationaux choqués par l'affaire Kalimachi, Jacob Silverman, dans The New Republic. Loin de conclure que Rukmini Kalimachi a sciemment fait confiance aux Canadiens malgré les zones d'ombre assez évidentes que présentait son témoignage, quitte à en faire même le personnage central de son podcast, Silverman s'interroge sur son rapport à ses sources et à ses histoires vivantes, humaines, cette quête des récits incarnés au cœur du chaos qui a fait la signature et la gloire de la journaliste du New York Times ces 7 dernières années.
Et depuis l'arrestation du soi-disant djihadiste au Canada, le New York Times a lancé une enquête interne.
Oui, il a chargé l'un de ses plus prestigieux enquêteurs de disséquer tout le travail de Rukmini Kalimachi pour déterminer si elle a pu manquer de prudence et de déontologie donc sur d'autres reportages. Et si aucune conclusion n'est encore tirée de cette enquête, le quotidien le plus réputé au monde ne peut faire autrement que d'entendre ce qu'il avait essayé d'ignorer jusque-là. Les critiques émises depuis des années déjà par d'autres journalistes spécialistes du Moyen-Orient sur les méthodes de la reporter vedette, critique sur sa quête effrénée et parfois agressive, nous dit-on, de l'histoire la plus édifiante, critique pour avoir sorti discrètement d'Irak en 2018 des tonnes de documents récupérés dans les archives de Daesh, doute également sur le fait qu'elle ne maîtrisait pas la langue arabe ou sur l'hyper-personnalisation de ses reportages qui la mettait très souvent en scène pour accentuer l'aspect sensationnel des sujets. Autant d'alertes qui n'avaient pas réussi à égratigner à l'époque l'aura de Rukmini Kalimachi mais qui, forcément, aujourd'hui trouve un écho à présent. Donc la réaction du New York Times ne cache rien de cette crise, nous montre à quel point également le journal prend la chose au sérieux et accepte de se remettre en question, notamment sur les travers de ce journalisme narratif qui s'impose depuis quelques années, mais qui pose de vrais défis en termes de vérification des sources sur des terrains de conflit complexes et dangereux face à des personnages et des organisations aux motivations troubles, et connaissant également l'habileté perverse avec laquelle Daesh détourne nos codes et nos fantasmes journalistiques occidentaux. Le travail de Rukmini Kalimachi perpétue un récit qui sensationnalise la violence commise par des arabes et des musulmans en mettant l'accent presque exclusivement et maladivement sur les dimensions religieuses et culturelles de cette violence. Ça, c'est la responsable d'une prestigieuse école de journalisme new-yorkaise qui formule les reproches faits à la journaliste star, laquelle reconnaît enfin le New York Times a toujours travaillé avec l'approbation totale de son employeur. Voilà au moins un quotidien qui n'élude pas a posteriori sa part de responsabilité dans la tourmente.
Et puis vous voulez, Camille, également revenir sur l'un des sujets dont vous nous parliez hier matin.
Oui, le Nigeria et cette impressionnante mobilisation de la jeunesse contre les brutalités policières, ça s'est confirmé hier. Les manifestants ne se satisfont pas de l'annonce dimanche du démantèlement de la brigade de police la plus critiquée pour ses méthodes criminelles. Ils étaient encore plus nombreux à défiler ce lundi à Lagos, nous rapporte The Punch, et des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 2 morts, un policier et un civil. Les manifestants n'acceptent pas que les agents de l'ancienne brigade dissoute puissent continuer à travailler dans d'autres unités de police sans sans aucun rappel à l'ordre et les promesses réitérées par les autorités de réformer les pratiques policières ne convainquent plus ces jeunes Nigérians qui sont, il faut bien le dire, les premières victimes des rackets, des violences commises par certains policiers. Sur le site de la BBC World, on lit que les dirigeants du pays ont évoqué une interdiction des manifestations. Dès aujourd'hui, le ton pourrait donc encore monter dans les prochains jours au Nigeria.
Et puis vous nous emmenez enfin sur les hauteurs du Machu Picchu au Pérou.
Oui, le site touristique parmi les plus célèbres au monde n'a toujours pas rouvert ses portes officiellement depuis le début de la crise sanitaire. Mais tout de même, on apprend dans le quotidien El Comercio que les ruines de l'ancienne cité Inca ont été visitées samedi par un touriste, un chanceux qui a pu avoir le site pour lui tout seul. Privilège absolu, distanciation sociale maximale. Ce visiteur n'était ni un milliardaire, ni un homme de pouvoir. Non, il s'agit de Jesse Katayama, jeune globetrotteur japonais qui vient de passer 7 mois bloqué au Pérou dans le village en bas du Machu Picchu. Il devait partir visiter la citadelle Inca au mois de mars. C'était le rêve de sa vie. Il avait traversé le globe pour ça, mais le confinement a été décrété et Jesse Katayama n'a plus pu aller nulle part, coincé donc dans un pays, on le sait, qui a été très durement touché par l'épidémie de Covid-19 et qui l'est encore aujourd'hui avec, comme nous le rappelle The Guardian, le plus fort taux de mortalité au monde. Les autorités péruviennes qui veulent apparemment communiquer sur le retour prochain à la normale ont profité un petit peu, il faut bien le dire, de cette histoire du jeune japonais bloqué aux portes de son rêve pour lui donner un heureux dénouement. Et ça leur a permis d'annoncer au passage que le Machu Picchu va rouvrir pour de vrai aux touristes le mois prochain avec une jauge à 675 visiteurs par jour.